presque un an après son retour à la maison, alors qu'il avait vendu pour se nourrir les candélabres d'argent et le pot de chambre héraldique, lequel, en cette minute de vérité, s'avéra ne pas être en or, hormis les incrustations de l'écusson, la seule et unique distraction de José Arcadio consistait à ramasser des enfants dans le village pour les emmener jouer chez lui. On le voyait avec eux à l'heure de la sieste, il les faisait sauter à la corde dans le jardin, chanter sous la véranda et jouer les équilibristes sur les meubles de la salle de séjour, tandis que lui-même allait d'un groupe à l'autre en donnant des leçons de bonne conduite. À cette époque, ses pantalons étroits et sa chemise en soie étaient hors d'usage, et il portait une tenue tout à fait ordinaire achetée dans les boutiques d'arabes, mais il gardait intacte sa dignité languide et ses manières papales. Les enfants s'emparèrent de la maison comme l'avaient fait autrefois les compagnes de Mémé. Jusqu'à une heure avancée de la nuit, on les entendait courir et chanter et danser des apateados, si bien que la maison avait fini par prendre des airs d'internat sans discipline. Aureliano ne se soucia pas de cette invasion, tant qu'ils ne vinrent pas le déranger dans la chambre de Melquiades. Un matin, deux enfants poussèrent sa porte et furent épouvantés par la vision de cet homme repoussant et velu qui continuait à déchiffrer les parchemins à sa table de travail. Ils n'osèrent pas entrer, mais restèrent à rôder autour de la pièce. Ils jetaient des regards furtifs par les fentes en chuchotant, jetaient des bêtes vivantes par les claires-voies, et certains jours ils clouèrent de l'extérieur la porte et la fenêtre qu'Aureliano mit toute une demi-journée à forcer. Amusés par l'impunité dont bénéficiaient leurs espiègleries, quatre enfants pénétrèrent un autre matin dans la chambre, alors qu'Aureliano se trouvait à la cuisine déterminé à détruire les parchemins. Mais dès qu'ils se saisirent des feuilles toutes jaunies, une force angélique les souleva du sol et les tint suspendus en l'air jusqu'à ce qu'Aureliano fût de retour et leur arracha les manuscrits. Désormais, ils ne revinrent plus le déranger. Les quatre plus grands parmi les enfants qui portaient encore des culottes courtes, bien qu'ils fussent déjà au seuil de l'adolescence, s'occupaient à soigner l'apparence personnelle de José Arcadio. Ils arrivaient plus tôt que les autres et consacraient leur matinée à le raser, à lui faire des massages avec des serviettes chaudes, à lui couper et polir les ongles des mains et des pieds, à le parfumer avec de l'eau de fleurs. Il leur arriva plusieurs fois de pénétrer dans le bassin pour le savonner de la tête aux pieds, cependant qu'il faisait la planche en songeant à Amaranta. Puis, il le séchait, lui talquait le corps et l'habillait. L'un des enfants, qui avait des cheveux blonds tout frisés et des yeux de vert rose comme les lapins, couchait de temps à autre à la maison. Les liens qui l'unissaient à José Arcadio étaient si solides qu'il l'accompagnait dans ses insomnies d'asthmatique, sans parler, déambulant avec lui à travers la maison plongée dans les ténèbres. Une nuit, dans l'alcôve où avait dormi Ursula, ils aperçurent un flamboiement jaunâtre à travers le ciment changé en cristal, comme si quelque soleil souterrain avait transformé en vitrail le sol de la chambre. Ils n'eurent pas besoin d'allumer. Ils n'eurent qu'à soulever les dalles brisées du renfoncement où s'était toujours trouvé le lit d'Ursula et où le flamboiement était le plus intense pour découvrir la crypte secrète qu'Aureliano II s'était épuisé à tant chercher dans son délire de fouille. On pouvait y voir les trois sacs de toile trélingués avec du fil de cuivre et à l'intérieur, les 7214 doublons de quatre qui continuaient à étinceler comme des braises dans l'obscurité. La découverte du trésor fit l'effet d'une déflagration. Au lieu de regagner Rome avec cette fortune si soudaine, qui avait été son rêve mûri dans la misère, José Arcadio transforma la maison en paradis décadent. Il fit refaire avec du velours neuf les rideaux de la chambre et le baldaquin du lit, fit daller le sol des bains et recouvrir les murs de carreaux de faïence. Le buffet de la salle à manger se remplit de pâtes de fruits, de jambons et de condiments conservés dans le vinaigre, et la réserve désaffectée s'ouvrit de nouveau pour emmagasiner les vins et les liqueurs que José Arcadio allait lui-même retirer à la gare de chemin de fer dans des caisses marquées à son nom. Une nuit, les quatre garçons et lui firent une fête qui se prolongea jusqu'à l'aube. À 6 heures du matin, ils sortirent tout nus de la chambre, vidèrent le bassin et le remplirent de champagne. Ils plongèrent en chœur, évoluant dans le vin comme une volée de moineaux dans un ciel doré de bulles parfumées, cependant que José Arcadio faisait la planche, en marge de la fête, rêvant les yeux ouverts à Amaranta. Il demeura ainsi absorbé dans ses propres pensées, remâchant l'amertume de ses plaisirs équivoques, bien après que les enfants fatigués s'en furent retournés au troupeau jusque dans la chambre où ils arrachèrent les rideaux de velours pour se sécher, fêlèrent la glace du miroir en cristal de roche et démolirent le baldaquin du lit dans la mêlée qui résulta de leur intention de se coucher. Quand José Arcadio s'en revint du bain, il les trouva endormis, pelotonnés les uns contre les autres dans le plus simple appareil, au milieu d'une alcôve en naufrage. Moins poussé par le spectacle de ses ravages que par le dégoût mêlé de pitié qu'il éprouvait vis-à-vis de lui-même, dans ce vide consternant où l'avait laissé la Saturnale, il s'arma de quelques disciplines de dresseur de chrétiens qu'il gardait au fond de sa malle, avec un cilice et d'autres chaînes de mortification et de pénitence, et expulsa les enfants de la maison en hurlant comme un fou et en les flagellant sans miséricorde, comme il n'eût pas fait pour une meute de coyotes. Il resta complètement effondré, avec une crise d'asthme qui dura plusieurs jours et lui donna tout l'air d'un moribond. Au bout de sa troisième nuit de torture, vaincu par l'asphyxie, il s'en fut trouver Aureliano dans sa chambre pour le prier d'aller lui acheter dans une pharmacie voisine quelques poudres à aspirer. C'est ainsi qu'Aureliano sortit pour la seconde fois dans la rue. Il n'eut qu'à longer deux pâtés de maison pour parvenir à la petite pharmacie à la vitrine poussiéreuse avec ses flacons de porcelaine portant des inscriptions en latin, où une jeune fille, à la beauté secrète comme un serpent du Nil, lui remit un médicament dont José Arcadio lui avait écrit le nom sur un papier. La seconde vision qu'il eut du village désert, à peine éclairée par les ampoules jaunâtres des rues, n'éveilla guère plus de curiosité en Aureliano que la première fois. José Arcadio en était déjà à penser qu'il avait pris la fuite, quand il le vit réapparaître, un peu hors d'haleine à cause de sa précipitation, se traînant sur ses jambes, que la réclusion et le manque d'exercice avaient affaibli et engourdi. Son indifférence au monde était si manifeste qu'au bout de quelques jours, José Arcadio viola la promesse qu'il avait faite à sa mère et le laissa libre de sortir à son gré. « Je n'ai rien à faire dehors », lui répliqua Aureliano. Il continua à vivre enfermé, absorbé par les parchemins auxquels il arracha peu à peu leur contenu, mais dont il n'arrivait pas à traduire la signification. José Arcadio venait dans sa chambre lui porter des tranches de jambon, des confitures de fleurs qui laissaient dans la bouche un arrière-goût de printemps et par deux fois un verre de bon vin. Il ne prêta aucun intérêt au parchemin qu'il considérait tout au plus comme un passe-temps ésotérique, mais son attention fut attirée par le savoir exceptionnel et l'inexplicable connaissance que ce parent morose avait du monde. Il apprit alors qu'il était capable de comprendre l'anglais dans les textes et qu'entre deux parchemins, il avait lu de la première à la dernière page, comme s'il se fût agi d'un roman, les 6 tomes de l'encyclopédie. C'est à cela qu'il attribua d'abord le fait qu'Aureliano pût parler de Rome comme s'il y avait vécu de nombreuses années, mais il ne tarda pas à se rendre compte que certaines de ses connaissances n'étaient pas encyclopédiques, comme sa notion du prix des choses. « Tout se sait !» se borna à lui répondre Aureliano, quand il le questionna sur la manière dont il avait obtenu ses informations. Pour sa part, Aureliano fut surpris de constater combien José Arcadio, vu de près, était différent de l'image qu'il s'était faite de lui en le voyant déambuler à travers la maison. Il était capable de rire, de se permettre de temps à autre quelque allusion nostalgique au passé de la demeure, de montrer du souci pour l'atmosphère misérable qui régnait dans la chambre de Melquiades. Ce rapprochement entre deux solitaires du même sang était très éloigné de l'amitié, mais leur permit à tous deux de mieux supporter l'insondable solitude qui les séparait et les unissait à la fois. José Arcadio put alors faire appel à Aureliano pour démêler certains problèmes domestiques qui le faisaient bouillir. Aureliano pouvait de son côté venir s'asseoir et lire sous la véranda, recevoir les lettres d'Amaranta Ursula qui continuaient d'arriver avec une immuable ponctualité et utiliser les bains dont l'avait banni José Arcadio dès son arrivée. Par un petit matin déjà chaud, tous deux furent réveillés en sursaut par des coups frappés avec insistance à la porte de la rue. C'était un sombre vieillard avec de grands yeux verts qui donnait à son visage une phosphorescence spectrale et une croix de cendre sur le front. Ses vêtements en haillons, ses chaussures déchirées, la vieille musette qu'il portait sur l'épaule pour tout bagage, lui conféraient l'aspect d'un mendiant, mais son maintien avait une dignité qui contrastait nettement avec ses apparences. Il suffisait de le contempler une seule fois, même dans la pénombre de la salle commune, pour se rendre compte que la force secrète qui lui permettait de vivre n'était pas l'instinct de conservation, mais l'habitude de la peur. C'était Aureliano l'amoureux, l'unique survivant des 17 fils du colonel Aureliano Buendia, qui errait dans l'attente de quelques trêves dans sa longue et funeste carrière de fugitif. Il déclina son identité, supplia qu'on lui donnât refuge dans cette maison à laquelle il avait songé dans ses nuits de paria comme au dernier asile qui lui restait dans la vie. Mais José Arcadio et Aureliano ne se souvenaient pas de lui. Croyant qu'ils avaient affaire à un vagabond, ils le jetèrent à la rue sans ménagement. Depuis la porte, tous deux purent alors assister au dénouement d'un drame qui avait débuté bien avant que José Arcadio n'eût atteint l'âge de raison. Deux auxiliaires de la police, qui avaient poursuivi Aureliano l'amoureux pendant des années, qui l'avaient pisté comme des chiens un peu partout dans le monde, surgirent d'entre les amandiers du trottoir d'en face et tirèrent sur lui deux balles de Mauser qui lui trouèrent bien proprement le front à l'endroit de la croix de cendre. En réalité, depuis qu'il avait chassé les enfants de la maison, José Arcadio attendait des nouvelles d'un transatlantique qui devait partir pour Naples avant Noël. Il en avait fait part à Aureliano et avait même fait des plans pour lui laisser un commerce tout monté qui lui permit de vivre, car le panier de victuailles n'arrivait plus depuis l'enterrement de Fernanda. Pourtant, ce rêve final devait lui non plus ne pas se réaliser. Un matin de septembre, après avoir bu le café avec Aureliano à la cuisine, José Arcadio finissait de prendre son bain comme tous les jours, quand, par les brèches dans le toit de tuiles, firent irruption les quatre garçons qu'il avait expulsés de chez lui. Sans lui donner le temps de se défendre, ils entrèrent tout habillés dans le bassin, l'empoignèrent par les cheveux et lui maintinrent la tête sous l'eau, jusqu'à ce qu'eût disparu de la surface le bouillonnement de l'agonie et que le blême et silencieux corps du dauphin eût glissé jusqu'au fond des eaux parfumées. Ils emportèrent ensuite les trois sacs d'or dont eux seuls et leurs victimes connaissaient la cachette. Ce fut une action si rapidement menée, si méthodique et brutale, qu'on aurait dit une attaque de l'armée. Aureliano, enfermé dans sa chambre, ne se rendit compte de rien. L'après-midi, ne l'ayant pas trouvé à la cuisine, il chercha José Arcadio dans toute la maison et le découvrit flottant dans les miroirs odorants du bassin, énorme, tuméfié et songeant encore à Amaranta. Ce n'est qu'alors qu'il comprit combien il s'était mis à l'aimer.